stop, vous pouvez vous installer sur les sur le volant. Et vous,
c'est bien.
Bonjour, on va commencer si vous le voulez bien, parce que je pense qu'on a un timing assez serré. Juste un petit rappel dans la salle, puisque nous serons en live, si vous pouvez veiller à mettre vos portables sur vibreur, s'il vous plaît. Alors le 28 juin, le train reliant la capitale à la préfecture du Puy-de-Dôme est arrivé avec 11 heures de retard en gare de Clermont. Le 27 juillet, les usagers ont mis 17 heures pour rejoindre Paris, deux exemples dans un été où la régularité des trains a baissé par rapport aux chiffres de 2018 et où 5 trains ont été annulés pour le seul mois de juillet dans le sens Clermont-Paris. L'exaspération a gagné les usagers et la montagne dans sa volonté de s'engager pour son territoire, rôle que le journal affirme depuis 100 ans, puisque le journal fêtera ses 100 ans le 4 octobre prochain, vous a lancé une invitation, Monsieur Pépi, ainsi qu'à Elisabeth Borne, alors ministre des Transports. Cette invitation trouve aujourd'hui sa concrétisation avec votre présence dans nos locaux et à Clermont-Ferrand face à nos usagers. Non pas dans le Paris-Clermont comme cela avait été envisagé, mais ici, dans nos locaux. Et avec vous, Guillaume Pépi et Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, tout nouveau secrétaire d'État des Transports et voisin du Limousin. Aujourd'hui, c'est votre premier déplacement officiel en tant que ministre et vous avez choisi de le consacrer à la ligne Clermont-Paris. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation et de répondre aux questions des usagers. Pour vous partager l'exaspération des usagers sur cette ligne, nous avons fait le choix ce matin d'inviter des acteurs économiques avant tout, qui utilisent cette ligne de manière hebdomadaire pour leur activité professionnelle. Ils sont face à vous. Ils ont de nombreuses questions à vous poser, des attentes à exprimer également. Et pas pour que leur cas personnel soit pris en compte, ça c'est important, mais surtout pour que cette taxe stratégique pour l'Auvergne entre enfin dans le 21e siècle. Alors comme la première question est toujours la plus difficile à poser, je vais me lancer. Avec une question à M. Djebbari et M. Pépi, mais avant tout aux représentants de l'État. Le personnel SNCF, qui est en première ligne pour affronter le mécontentement et la colère des usagers, vit par moments cela comme une injustice, puisque ce personnel souhaiterait lui aussi des améliorations sur la ligne du Paris-Clermont. Et l'argument qui revient dans les discussions de manière régulière, c'est nous faisons avec les moyens, notamment financiers, et les missions que nous fixe l'État. Il ne faut pas s'en prendre à la SNCF, mais l'interlocuteur pour débloquer des crédits financiers et fixer les priorités pour cette ligne est bien l'État. Pour remettre cette ligne à niveau, les élus réclament un plan Marshall à 2 milliards. Donc, Monsieur Djebbari, est-ce que vous êtes venu nous annoncer ce matin un plan Marshall avec une enveloppe de 2 milliards d'euros pour cette ligne et éventuellement également pour la ligne POLT qui est chère à votre cœur?
Merci et bonjour à tous. Très honoré d'être reçu dans vos locaux et très heureux d'être avec vous pour mon premier déplacement à Clermont-Ferrand. Alors, un voisin du Grand Massif Central, vous le disiez, mais qui, à Limoges, subit ou a subi comme usager un certain nombre de dysfonctionnements ou on va dire, des problèmes similaires à ce que vous pouvez connaître ici. Donc, les problèmes, ils me sont familiers et je vais essayer d'y répondre, au moins poser le cadre avant que Guillaume Pépi précise les actions côté SNCF. Je crois qu'on a un sujet majeur sur ces deux lignes structurantes, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont, qui est le sujet de la vétusté du réseau, qui, de fait, entraîne ces retards, ces dysfonctionnements, ces annulations, bref, une qualité de service qui est dégradée. Donc il y a un premier sujet majeur, et on pourra parler un peu de volume financier, qui est l'action de l'État et de l'opérateur SNCF pour la régénération de la voie, pour la remettre à niveau, pour faire en sorte que l'infrastructure supporte mieux le trafic et réduise les dysfonctionnements. C'était le premier sujet. On pourra parler des millions et des milliards, mais d'une manière générale...
On préfère les milliards. Hein.
On préférait les milliards. Bon, l'effort, d'une manière générale, porté sur la régénération, la remise à niveau de la voie, c'est 760 millions d'euros de crédits qui sont engagés sur le Paris-Clermont. C'est un peu plus d'un milliard sur le Paris-Limoges, enfin, sur le POLT, Guillaume pourra préciser. Et puis, en dehors de la voie, il y a évidemment le matériel roulant, qui, comme vous le savez, fait l'objet d'un engagement de l'État. Nous votons actuellement la loi mobilité, et dans la loi mobilité qui est intégralement financée, et je le dis, c'est important, parce qu'on a tendance, on a eu tendance dans le passé à voter des lois qui n'étaient pas financées, mais dans cette loi qui est financée, il y a l'intégralité du renouvellement du matériel roulant sur les deux lignes. Et l'effort budgétaire global est de 700 millions d'euros. Donc si on additionne déjà ces chiffres, vous avez quelques milliards. Et ça, c'est important. C'est un appel d'offres qui est entre les mains de la SNCF, avec une prise de décision assez rapide et une mise en œuvre dans les prochaines années pour une livraison des rames en totalité entre 2022 et 2023, si mes informations sont exactes. Donc il y a vraiment sur ces deux aspects-là un engagement fort de l'État. Et évidemment, pour finir sur la question des cheminots, les cheminots subissent les conditions matérielles de travail qui leur sont données, et l'accompagnement de l'État fort, l'engagement fort de l'État vise évidemment à permettre aux cheminots de travailler dans la sérénité, sur le temps long, en sachant que l'autorité publique est évidemment à leur côté.
Peut-être pour ajouter à... Bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour ajouter à ce qu'a dit le ministre, vous avez évoqué, madame, l'été. La qualité de service a été mauvaise cet été. Je suis le premier à le reconnaître. La canicule a évidemment pesé, mais pas que. Même si la canicule a été à l'origine d'un des deux très très grands retards, puisque chacun a vu les photos. On a des arbres qui sont à côté des voies et certains arbres sont tombés à cause de la sécheresse. Et malheureusement, sur cette ligne, c'est ce que disait le ministre à propos de sa vétusté, il n'y a pas partout des aiguillages qui permettent, quand un arbre est tombé sur une voie, de passer sur l'autre voie. Donc ça fait partie des choses à faire. Donc oui, moi je reconnais très volontiers que la qualité de service cet été n'était pas au rendez-vous. Mais je voudrais revenir un instant sur le rôle de cette ligne. Cette ligne, c'est une grande ligne nationale d'aménagement du territoire, comme celle que le ministre a citée, Paris-Orléans-Limoges toujours. Cette grande ligne nationale d'aménagement du territoire, ça veut dire que c'est une ligne qui est vitale. Tous les chiffres ne sont pas connus, j'en cite juste deux ou trois. C'est 1 800 000 voyageurs chaque année. 1 800 000 voyageurs. Et il y a autant d'habitants de la région de Clermont qui vont à la capitale ou dans des villes moyennes que de franciliens ou de touristes qui viennent voir l'Auvergne et évidemment pas mal de voyageurs très fréquents. Et donc, au fond, c'est une ligne qui intéresse tout le monde. Elle intéresse les professionnels, elle intéresse les familles, elle intéresse les loisirs, elle intéresse le tourisme. Mais il ne faudrait pas que la qualité de service empêche de dire que c'est une ligne qui a un grand succès. Il y a un chiffre, moi, qui m'a frappé depuis maintenant plusieurs mois, c'est qu'il y a 16% de voyageurs en plus cette année, en 2019, par rapport à il y a 4 ans.
Oui, on peut penser qu'avec de vraies qualités de service, un matériel moins vétuste, de bonnes conditions de voyage, on pourrait augmenter encore davantage
Absolument.
Cette fréquentation, d'autant dans une période où on est tous centrés sur notre empreinte écologique. Moi-même, Monsieur Pépi, je vais vous faire cette confidence, je ne devrais pas. Mais depuis 2 ans, je ne prends plus le train, je prends ma voiture.
Eh ben c'est très mal.
Mais au moins, je maîtrise mon agenda
mais
et mes rendez-vous parisiens.
Ce pourquoi la ligne a beaucoup de succès quand même, parce qu'il y a 16% de voyageurs en plus. Hein. La ligne n'est pas dans une période de désaffection. Elle est au contraire dans une période où elle a de plus en plus de succès vis-à-vis des gens qui ont le choix. Moi, je voudrais rappeler une chose simple. Hein. Une voiture conduite par un conducteur qui est seul, c'est 213 grammes de CO2 au kilomètre. Le train, c'est 7 grammes de CO2 au kilomètre. Et donc, dans le résultat que je donnais, les plus 16% de voyageurs, il y a beaucoup de gens qui décident d'avoir, on va dire, une mobilité responsable et qui se disent, oui, le train, parfois, il y a des problèmes. Mais enfin, avec la voiture, en région parisienne, il y a parfois des problèmes. La voiture, c'est en gros 4h30 quand on respecte les limitations de vitesse. Le train, c'est 3h25 quand on prend le train qui s'arrête. Donc, de toute façon, le train, s'il est fiable, il permet de gagner une heure sur la voiture. Et puis enfin, donc je le disais, l'écart est de 1 à 30 en tonnes de CO2. Et donc, c'est un atout sur lequel il va falloir qu'on capitalise, un atout sur lequel il va falloir qu'on se batte pour avoir plus de voyageurs.
Très bien. Merci. Une première question parmi nos usagers.
Bonjour, Sébastien Thomas, je suis représentant de la Nièvre. Professionnellement, j'ai une entreprise de bâtiment et je suis également élu auprès de la Chambre des métiers de la Nièvre. J'ai bien entendu vos réponses à la question précédente, mais néanmoins sur la qualité effectivement des rames et la qualité du confort parfois dans le train, c'est pas toujours très agréable. Alors même si le temps mis, on l'entend entre, moi je vais parler de Nevers et Paris, est à peu près équivalent ou un peu moins à faveur, enfin ou un peu mieux à faveur du train. Il n'empêche que si ce temps-là, il ne peut pas être mis à disposition du travail, c'est pas forcément pratique. Et puis, on est également sur des délais qui sont théoriques, puisque parfois les retards, 5-10 minutes, ça peut permettre d'arriver un peu en retard également au rendez-vous pour lequel on est attendu. Voilà. Donc ma question, c'est là, pour être plus précis, c'est est-ce qu'il y a un projet de modernisation des rames et principalement de la qualité pour les usagers?
Je crois qu'on a un tout petit peu évoqué dans la réponse précédente. Il y a un projet de renouvellement intégral du matériel roulant. C'est 17 rames, Guillaume précisera, 17 rames, je crois, sur Paris-Clermont et 18 sur le Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. C'est intégralement financé par l'État. C'est un peu plus de 700 millions d'euros. Et c'est effectivement des rames qui visent à avoir des trains. Alors, vous savez que les trains Cora, ils ont été modernisés il y a quelques années, un peu rehaussés, donc ça brinque-balle un peu. Vous connaissez ça par cœur, ça brinque-balle un peu. Et par ailleurs, souvent, c'est bien se greffer avec le fait qu'on est dans des zones qui, possiblement, traversent des zones blanches, donc vous n'avez pas de téléphone mobile. Donc bref, tout ça se greffe et fait que l'expérience usagée, elle est effectivement assez dégradée. Et donc tout ça doit être amélioré avec le renouvellement des rames, avec l'action sur le numérique pour que... et d'ailleurs, les rames ont été équipées en Wi-Fi ou sont en train d'être équipées en Wi-Fi de manière à avoir cette qualité de service à bord. Donc, tout ça est en cours de route. Et sur, oui, bah, ça peut s'améliorer, je suis bien d'accord. Nous, sous Vierzon, ça devient un petit peu compliqué. Voilà, le programme d'amélioration de la qualité de service, il est en cours. Et sur le calendrier, peut-être que Guillaume y reviendra, mais l'appel d'offres, il est traité par la SNCF et les rames, elles sont financées par l'État. Et Guillaume peut-être pourra préciser sur à la fois la nature du matériel et le calendrier.
Merci. D'abord, sur la situation d'aujourd'hui, moi je prends le train quand je viens à Clermont, je l'ai encore pris, je suis venu aux ateliers construction de Clermont au printemps, on en a parlé avec les cheminots de la ligne, on en a parlé avec les voyageurs. La situation sur le confort, elle n'est pas acceptable. Les rames sont hors d'âge. Elles ont en gros une quarantaine d'années. Et donc, on a des sujets de toilettes, on a des sujets de climatisation ou de chauffage, on a des sujets de portes. Enfin, il faut imaginer ce que c'est qu'une voiture qui aurait 40 ans, quoi. Voilà, bon, le train a 40 ans. Bon. Ça, c'est le mauvais côté des choses. Et en attendant l'arrivée du nouveau matériel qu'annonce le ministre, nous, il faut qu'on ait une organisation et une fréquence de maintenance qui soit plus importante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre une personne chargée du nettoyage pendant la circulation du train, pour qu'il y ait quelqu'un qui veille pendant le trajet au nettoyage des toilettes, aux poubelles et aux choses comme ça. Deuxièmement, on va revoir la périodicité de maintenance des clims, parce que ces clims sont anciennes et elles ont tendance à se mettre hors service. Et donc, franchement, c'est désagréable. On a beaucoup, beaucoup de sujets comme ça, qui est qu'en attendant l'arrivée du train neuf, il ne faut pas laisser les choses dériver. Alors, si je reviens maintenant sur l'arrivée du train neuf. Voilà. Alors, arrivée du train neuf. Donc, la bonne nouvelle, c'est que depuis 18 mois, l'État a décidé de financer. Ça faisait 10 ans qu'on en parlait, mais depuis 18 mois, l'État a décidé de financer intégralement cet investissement. Bon. Donc, un appel d'offres a été lancé. L'appel d'offres est presque terminé. Et l'annonce que fait le ministre, c'est qu'à la fin du mois d'octobre, le conseil d'administration de la SNCF devrait voter le marché. Voter le marché, c'est-à-dire signer le contrat d'acquisition. Je ne peux pas dire le vainqueur, parce que ça, ça serait illégal, et qu'on est en train de terminer
le dépouillement. Le dépouillement,
voilà. Il ne faudrait pas qu'il y ait des recours. Donc, voilà, le vainqueur sera connu à la fin du mois d'octobre. On est en train de finir les dépouillements, etc. Et donc, concrètement, ça veut dire... Alors, juste un mot sur ce train. Ce train, il roule à 200 km/h. Ce train, il comporte 405 sièges. Donc, quand on met deux trains à coller, ça fait 810 sièges. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un corail, c'est en gros 13 voitures. Et 13 voitures à 55 ou 60 ou 65, suivant qu'on est en seconde ou en première. Donc, la capacité est la même. Ce qui change, c'est vraiment le confort. Bon, des prises électriques qui marchent, le Wi-Fi qui marche. Il y a des espaces de stockage pour le service de la restauration. Il y a une clim qui est évidemment une clim des années 2020 et non pas une clim des années 80. Et puis, il y a une dizaine d'espaces pour les vélos. C'est important parce que beaucoup de touristes viennent dans la région ici en cyclotouriste. Donc, il y a une dizaine de places. Évidemment, il est conforme à toutes les normes sur l'accueil des personnes à mobilité réduite. Donc, le cinéma de la plateforme élévatrice pour monter dans le corail, du virage à prendre pour entrer dans le couloir, tout ça est terminé. C'est un train qui est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes âgées ou aux poussettes, ce qui va énormément changer les choses. Bon, évidemment, traction électrique. Donc, on reste par définition dans un train qui est très écologique. Train qui, par parenthèse, sera recyclable à 93%. Alors, quand est-ce qu'il arrive ? Dans l'appel d'offres, il est prévu que le premier train arrive en gros en 2023. Pourquoi 2023 ? C'est parce que non seulement il faut fabriquer le premier exemplaire, mais il faut le faire homologuer du point de vue de la sécurité. Il faut faire des tests, il faut faire un prototype. On ne veut pas se retrouver en 2023 avec un train dont vous nous diriez « on regrette les corails parce qu'au moins… » Non, non, on veut un train qui marche dès le premier jour. Dès le premier jour. Donc, premier train en 2023, environ 11 trains qui vont être entièrement affectés à la ligne Paris-Clermont, qui vont faire la navette entre Paris et Clermont. Et donc, il faudra en gros un an pour que ces trains soient livrés. Un an, c'est-à-dire entre fin 2023 et fin 2024.
Objectif Capital, qui est une association qui rassemble les acteurs économiques et les grandes entreprises pour militer justement pour la mise en place de trains du travail bien équipés, demande des liaisons de 2h30 entre Clermont et Paris. Est-ce que, Monsieur Pépi, c'est possible et comment on peut y parvenir ? Parce que vous nous parlez de trains qui vont rouler à 200 km/h. Mais en pratique, il faut qu'on parle des infrastructures sur l'ensemble de la ligne. Entre la possibilité de rouler à 200 km/h et des infrastructures qui ne le permettent pas, est-ce que cet objectif de 2h30 vous semble accessible et réaliste ?
Alors, sous le contrôle du ministre, parce que c'est une ligne d'État et qu'il y a en plus un schéma directeur, on y reviendra, hein. Schéma directeur, c'est-à-dire que l'État est l'autorité organisatrice comme le conseil régional est l'autorité organisatrice des TER. C'est exactement le même système. C'est-à-dire que, comme l'a dit le ministre, c'est l'État qui a financé ou qui va financer le nouveau matériel et c'est l'État qui décide le nombre de fréquences, le type de matériel qu'on utilise, les arrêts, etc. Donc là, vous me voyez dans un exercice de composition où je parle sous le contrôle de mon ministre des Transports. Là-dessus, il faut être cash. Comme le ministre l'a dit, l'infrastructure est vétuste. Face à une infrastructure qui est vétuste, sur laquelle panne, dérangement, ralentissement, tout ça se cumule, il faut décider de quelle est la priorité. Moi, dans ma mission de conseil, je conseille que la priorité soit l'amélioration de la ligne existante. Je le conseille fortement. C'est-à-dire que je pense que tous les euros doivent être mis sur l'amélioration de la ligne existante. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que aujourd'hui on a trop de passages à niveau, avec aussi les risques que ça comporte pour les usagers qui traversent la voie. On a des problèmes d'alimentation électrique, avec des stations d'alimentation qui ne sont pas d'une puissance suffisante pour faire face au trafic. C'est pour ça que ce fameux schéma directeur, il prévoit d'augmenter le nombre de trains de 8 à 9 par jour. Mais on ne peut pas le faire si on ne fait pas des travaux avec des stations d'alimentation électrique. Il y a de la signalisation qu'il faut changer. Il y a de la signalisation qui a encore 30, 40 ou 50 ans. Il y a autre chose, c'est qu'il y a des tronçons à 200 km/h qui ne sont plus à 200 km/h parce que la voie a bougé. Et en réalité, sur des tronçons à 200, on roule à 160. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'annonce forte qui a été faite, c'est les 760 millions d'euros que l'État décide d'investir sur cette ligne pour la remettre au niveau moderne que les 1 800 000 personnes exigent. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on peut aller plus vite? Moi, je ne veux pas être hypocrite là-dessus. En l'état de cette ligne, hein, qui tourne quand même pas mal, hein, qui a été créée en 1860, qui s'arrête dans les villes intermédiaires, on peut gagner quelques minutes, passer allez, une dizaine de minutes en moins. Mais la ligne ne peut pas, aujourd'hui, ni demain, cette ligne-là ne peut pas faire 30 minutes de plus. Si on voulait faire 30 minutes de plus, mais là vraiment c'est... Pardon. Si on voulait faire 30 minutes de plus, ça arrive, hélas. Donc c'est un lapsus intéressant, ça arrive. Si on voulait faire 30 minutes de moins, c'est une décision vraiment stratégique qu'il faut prendre entre l'État, les élus et tous les acteurs économiques. Ça consisterait à faire une ligne nouvelle de bout en bout ou un morceau de ligne nouvelle. La ligne nouvelle de bout en bout, elle a été étudiée il y a 2 ans et un conseil de sages auprès de l'État, un conseil de sages dans lequel il y a des élus, a dit ce projet est intéressant, mais on ne peut pas le faire tout de suite, on le fera sans doute dans 20 ou 25 ans. Il a été renvoyé à cette période. Et c'est un conseil de sages qui, ayant pesé un peu tous les sujets, a dit une ligne nouvelle Paris-Clermont, oui, ça a un intérêt, mais on ne peut pas la faire tout de suite. Après, il y a une autre idée qui est venue, qui est, est-ce que vous ne pourriez pas, sur certains tronçons, faire, entre guillemets, un bout de ligne nouvelle pour gagner une fameuse demi-heure? Ce dossier a été étudié il y a une dizaine d'années, mais il y a 2 inconvénients. D'abord, ça coûte incroyablement cher de faire une ligne nouvelle. Je voudrais partager un chiffre, parce que souvent, on dit, il n'y a qu'à, il faut qu'on. Si vous prenez 1 km de la ligne Paris-Clermont, vous remettez tout à neuf. Vous enlevez les traverses, vous enlevez les rails, vous enlevez le ballast et vous mettez que du neuf. Ça coûte 1 million d'euros du kilomètre. Facile à se rappeler, 1 million d'euros du kilomètre. Mais vous dites, non, mais finalement, je veux pas ça, je veux mettre un bout de ligne nouvelle à 300 ou 320 km/h. Le chiffre, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 4, c'est 25 ou 30. C'est-à-dire qu'il y a 30 fois plus cher de faire une ligne nouvelle par rapport à remettre à neuf une ligne existante. Donc c'est pour ça que l'idée de faire 80 ou 100 km de ligne nouvelle, ben vous multipliez ça par 25 à 30 millions, ça veut dire que ça coûte 2,5 milliards à 3 milliards.
Bonjour, je me permets tout d'abord de remercier La Montagne pour cet événement et d'être, monsieur le ministre, madame la préfète et monsieur le président, d'être venu à notre rencontre. Très brièvement, Anne-Sophie Véret, je suis directrice générale d'un bureau d'études qui s'appelle Seule Solution. Nous sommes implantés à Rion et nous sommes spécialisés dans la mécanique du sol et notamment l'interaction avec les structures ou les ouvrages que peuvent être notamment les infrastructures de transport. À cette occasion, nous comprenons les contraintes techniques. En tout cas, nous estimons comme partie prenante de ces problématiques. Mais en tant qu'usagers et étant vraiment... Nous cherchons un rayonnement, bien sûr, international, puisque nous mettons au point des méthodologies innovantes. Nous sommes amenés à nous déplacer très régulièrement à Paris. Et il est clair que les incidents dont vous avez parlé cet été, ou au quotidien, quand on prend à peu près le train une fois par semaine... le moindre dérapage nous rend assez hystériques, je dirais, parce que chaque minute, vous le savez, dans nos vies compte. Donc effectivement, c'est toujours très compliqué. J'aurais une question, ce serait, effectivement, je reçois avec beaucoup de plaisir les nouvelles rames et je l'espère qu'ils sont d'une nouvelle génération. Une question par rapport à la fréquence des trains. Paris-Clermont, puisque cette ligne, vous l'avez indiqué, n'est pas du tout en désaffection, est-ce que nous pouvons espérer une fréquence qui serait plus régulière qu'aujourd'hui un train à peu près une fois par heure sur des créneaux très déterminés?
Et notamment pour compléter des trains directs, puisqu'il y en a un le matin et un à 18h le soir, je crois, pour permettre justement sur un déplacement travail puisse s'effectuer en une seule journée.
Peut-être un point de complément sur le sujet précédent et une réponse sur le cadencement. Le point de complément, c'est que du point de vue de l'usager, à mon sens, il vaut mieux être certain qu'on a un train à 3h10, 3h15, 3h20 tous les jours et qu'on sait qu'on sera à notre rendez-vous à Paris à l'heure et qu'on viendra à l'heure et que le train ne sera pas annulé. Il vaut mieux être certain de ça que de poursuivre une forme d'illusion d'un grand projet à 15, 20, 35 ans qu'on a pu connaître nous aussi à Limoges avec la LGV Limoges-Poitiers et qui conduit finalement qu'à créer du dissensus local, qu'à dresser les uns contre les autres et surtout à ne rien faire ou à perdre beaucoup de temps. Et je pense que vraiment sur ces lignes qui sont des lignes structurantes pour le territoire, l'heure n'est pas à envisager des grands projets assez hypothétiques et à mon avis largement non financés, mais vraiment de concentrer les investissements sur l'amélioration tangible, réelle, concrète, qu'on peut percevoir d'ici quelques mois, quelques années, et qui ramène le temps à quelque chose d'acceptable, mais surtout la régularité et la confiance qu'ont les usagers dans la ligne à un niveau qui soit acceptable. Parce que bien souvent, on s'aperçoit, y compris sur les TER, sur les petites lignes, que dès lors qu'on a perdu la confiance dans l'offre ferroviaire, alors on se déporte. Et quand on se déporte, on a moins de passagers. Et vous voyez le cercle vicieux que ça peut entraîner. Donc, à mon avis, le sujet majeur pour la SNCF, pour le ferroviaire d'une manière générale, c'est la robustesse. C'est que le client soit persuadé que l'offre ferroviaire, elle est robuste et que les trains, dans la très grande majorité, partent et arrivent à l'heure. Sur la question du matériel roulant, puisque c'était votre... De la fréquence. Donc c'est une annonce peut-être qu'on peut partager avec vous. Il y aura une fréquence supplémentaire, un aller-retour supplémentaire sur cette ligne. Ça me paraît nécessaire, ça permet d'accompagner la croissance. Et évidemment, tous les efforts qui sont faits de façon simultanée sur la remise à niveau de la voie permettra d'être aussi dans ce cercle vertueux et d'accompagner le développement du territoire.
Peut-être sur l'engagement de régularité qu'on peut prendre. Aujourd'hui, la régularité... c'est 80% des trains arrivent à l'heure dans les 5 minutes, soit à Paris, soit à Clermont. 80%. À 5 minutes. À 10 minutes, c'est 86 ou 87. Si on fait tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire on met des trains neufs, tous les trains sont neufs. Il n'y a plus un seul corail et il n'y a plus les locomotives, parce que les locomotives, elles ont aussi 35 ans. Donc si on change complètement les trains, si on fait les 760 millions d'euros de travaux sur la voie, je pense que l'engagement qu'on peut prendre, c'est de passer de 80 à 90, c'est-à-dire de gagner 10 points de régularité à 5 minutes. Mais pour ça, il faut faire une autre chose. C'est que, comme voyageurs, on a tous connu des incidents qui parfois font sourire les gens, mais divagation de bestiaux, branches sur la voie, arbres tombés, c'est 60% des incidents externes.
Alors justement, permettez-moi de vous interrompre, Monsieur Pépin, sur les arbres précisément et sur le fait, sur l'ensemble de la ligne. Alors il y a le problème de la canicule, la sécheresse, les branches tombent. Quand il neige beaucoup, le poids de la neige fait ployer également les arbres. Mais sur l'entretien tout au long de cette ligne, pourquoi la SNCF ne se rapproche pas des conseils départementaux, par exemple, avec des chantiers d'insertion et prévenir un entretien sur l'ensemble de la ligne et de la voie pour justement éviter ce genre d'incident qui se répète.
Alors, je pense que vous avez totalement raison, mais il faut être encore beaucoup plus ambitieux. Beaucoup plus ambitieux.
Soyons-le.
Oui, mais on traverse des régions qui sont des régions d'élevage et on a des problèmes de divagation de bestiaux. C'est normal quand on est dans le Nivernais. C'est normal. Bon. Donc, il faut regarder avec nos collègues de réseau, et Thomas Allary est là, il faut regarder à quels endroits il faut clôturer la ligne, car elle n'est pas aujourd'hui clôturée sur tout son parcours. N'importe quelle ligne à grande vitesse ou n'importe quelle ligne qui est dans la périphérie des villes est clôturée. Celle-là ne l'est pas. Et donc, assez fréquemment, heure d'une vache, troupeau sur les voies, etc. etc. Bon. Deuxième chose, plus ambitieuse, alors là, ça va forcément un peu couiner. Il faut procéder avec les propriétaires le long des voies à une campagne d'abattage d'arbres. Mais l'abattage d'arbres, ce n'est pas Yaka Faucon, c'est aller voir le propriétaire privé qui a un jardin, qui a un bois, qui a un terrain, qui se trouve à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres de notre périmètre. Cette personne ignore complètement que sur son bois, il y a X% des arbres qui sont en mauvais état et qu'il y a donc un risque qu'un jour, l'arbre tombe sur la caténaire. Et quand l'arbre tombe sur la caténaire, le tarif, il est connu, c'est au moins 3 heures. Au moins 3 heures. Le temps de dégager l'arbre, de réparer la caténaire, de faire repartir, enfin vous l'avez tous vécu, l'arbre sur la caténaire, c'est 3-4 heures. Donc l'engagement que je prends devant vous, c'est qu'avec les équipes de réseau, on va préparer là, dans les prochains mois, ce plan d'abattage des arbres qui peuvent interrompre la circulation. On va préparer le sujet clôturage et on va lancer massivement un plan, on va dire, de dégagement de l'environnement de la voie pour supprimer ce genre d'incidents qui sont assez spécifiques à la ligne et dont tout le monde a parfaitement assez. Mais je dis tout de suite, il va y avoir des discussions musclées avec des propriétaires, parce que quand un propriétaire privé a un arbre à abattre, ben ça coûte quelques centaines d'euros, et quand il en a 5, quand il en a 10, quand il en a 20, mais voilà, il va falloir faire ça, car l'incident de cet été le plus embêtant, celui où les voyageurs ont en gros dormi à Nevers parce qu'ils étaient arrivés à 2h30 du matin à Nevers et qu'on a dit on ne va pas continuer à explorer la ligne pour voir s'il y a d'autres arbres qui sont tombés. Bon, ben c'était une énorme branche, un énorme arbre qui est tombé sur la caténaire en plein été pendant la canicule.
Pascal Baratou, peut-être une question.
Oui, bonjour. Donc, Pascal Baratou. Je suis directeur dans une société de services américaine et j'ai pris le parti de venir faire du télétravail et dans l'Allier. Donc c'est un petit peu à ce titre que je témoigne. J'entends beaucoup de choses et c'est très bien, enfin, c'est plutôt rassurant. Attention de ne pas oublier justement les villes intermédiaires, parce que si on est à Moulins et qu'on doit voir les trains rapides tout neufs passer sans s'arrêter, ça va poser d'autres soucis. Donc aussi de faire un petit peu à ça et de ne pas oublier les villes intermédiaires, Moulins, Vichy et Rion. Après, parce que c'est très important, alors on a la chance, entre guillemets, à Moulins, parce que c'est 2h30 de train, donc si on peut gagner un petit peu de temps, ça serait encore mieux. Le tourisme aussi se développe et effectivement, il est assez facile de faire des allers-retours, d'où la ponctualité qui aujourd'hui manque. On m'a dit, bon, les témoignages, pas trop en donner, mais encore hier, j'ai fait l'aller-retour. Je monte dans le train et j'entends quelqu'un qui dit « Oui, bah chérie, je suis dans le train, j'arrive en espérant que j'arrive à l'heure. » Donc c'est vrai que les gens aujourd'hui montent dans le train presque un petit peu avec la peur au ventre. Donc ça va quand on rentre chez soi, si on arrive une demi-heure en retard. Mais quand c'est un rendez-vous à Paris, c'est compliqué. Déjà qu'il arrive à 8h58, donc ce qui est déjà tard pour être en rendez-vous dans Paris ou en proche banlieue, parce qu'on n'atteindra jamais, on ne sera jamais à 9h30 pile. Donc une demande, c'est est-ce qu'il est prévu de prévoir des trains qui arrivent un peu plus tôt.
Juste pour préciser, bien compris que chacun est intéressé par sa desserte, l'annonce d'un aller-retour supplémentaire. Donc on est à 8 allers-retours aujourd'hui quotidien, ce sera 9. Et l'aller-retour en plus, il dessert toutes les gares de la ligne. Donc ça répond un tout petit peu à votre question, et l'analyse que vous faites, elle est très juste, mais ça revient au sujet précédent de la perception de la robustesse de l'offre ferroviaire. Et c'est vrai qu'en ayant un cadencement de 2 heures, ça permet quand même d'ajouter un petit peu de souplesse sur les arrêts, de gérer la croissance et d'aller vers cette amélioration de la qualité de service pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment.
Je complète juste une phrase. C'est vrai que pour ceux qui sont anciens sur la ligne, et on l'est pour un certain nombre, vous vous souvenez sans doute qu'on avait eu un débat vraiment difficile en 2011-2012, où c'est le moment où on a mis le cadencement sur tout le réseau ferroviaire français. Et il y a eu un gros débat sur est-ce qu'il ne faut pas, sur Clermont, créer deux types de trains, des directs, 3-4, et puis des trains qui s'arrêtent avec des arrêts intermédiaires. Et ce débat-là a été tellement difficile sur cette ligne qu'il est monté chez le Premier ministre de l'époque, parce que en gros, les Clermontois suggéraient qu'on réduise les arrêts, les 4 arrêts, hein, que sont Rion, Vichy, Moulins et Nevers. Et les Neversois exigeaient, compte tenu de l'importance de la ville de Nevers, que tous les trains s'arrêtent à Nevers. Et voulaient même qu'on revienne sur le fait que le volcan est un train qui ne s'arrête pas. Donc ce débat était très, très, très difficile. Et après des mois et des mois, le ministre de l'époque a réuni le maire de Nevers, le maire de Clermont, etc. Et a dit, écoutez, moi, même ministre et même avec toute la capacité d'arbitrage que j'ai, je ne peux pas trouver de solution qui satisfasse tout le monde. On ne peut pas avoir des trains qui passent comme ça devant les villes intermédiaires sans s'arrêter. Et d'un autre côté, il faut préserver le volcan. Et donc la décision qui a été prise était la décision un peu sage de dire il y a un train direct sans arrêt. Je rappelle qu'il part très tôt. Hein. Il part de 5h16 de Clermont pour arriver aujourd'hui à 8h56. Donc le faire partir plus tôt de Clermont, déjà 5h16, c'est très tôt. Oui, hein. Voilà.
Une autre question, on prendra après.
Merci. Bonjour, Stéphanie Picard. Alors moi, je travaille à l'Agence française de développement à Paris, au siège, et pour des raisons personnelles et familiales de maladies d'enfants qui ne pouvaient plus vivre à Paris, nous sommes venus nous installer en Auvergne, dans cette charmante petite ville qui est Vic-le-Comte, au sud de Clermont. Et on a de la chance d'avoir une gare de TER. Voilà, donc ça fait 6 ans que je suis à un rythme d'un ou deux allers-retours par semaine. Donc vous imaginez mon désarroi. Voilà. Voilà, on a créé avec une petite bande de copains une page Facebook qui s'appelle « Les usagers réguliers de la ligne SNCF Clermont-Paris », dans laquelle, généralement, c'est assez bienveillant. Il y a beaucoup d'humour. Je vous invite à aller regarder. Voilà, chacun témoigne un petit peu de ses soucis. Voilà. Moi, je voulais interroger. J'avais prévu de parler de plein de choses, mais je n'avais évidemment pas du tout le temps. Donc je me permettrai de vous remettre à chacun un petit papier. Comme ça, vous aurez le temps de lire ça. Voilà, je voulais démarrer par l'introduction d'un livre qui s'appelle « En France » de Florence Benat, qui est paru en 2014, où elle décrit qui nous sommes, les déplacés professionnels. C'est-à-dire que nous, c'est à 6 heures du matin, voilà, c'est par le train direct. Alors, quand j'ai démarré il y a 6 ans, partait à 6 heures, donc on mettait 3 heures. Et alors maintenant, il part à 5 h 52, donc on met 10 minutes de plus, puisqu'on arrive à 9h de Paris. Voilà. Et alors, quand on lit évidemment les articles dans le journal Bordeaux à 2h, Rennes à 1h15, on pâlit tous de jalousie, mais vraiment. Donc voilà. Bon, après, moi aussi, je fais beaucoup de télétravail donc de ma petite ville. Voilà, donc je me rends régulièrement à Paris. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, il y a 700 millions pour les voitures, le matériel roulant, et plus de 700 millions pour la ligne, c'est ça ? Donc on est à 1,4 milliard. Alors ce n'est pas les 2 milliards, mais je ne sais pas ce qui était dans les 2 milliards dont Mme Thomas nous parlait.
Qu'on souhaite les 2 milliards. On attend des. Oui, on c'était est pas un beau projet. Voilà, savoir donc là, si il y a un petit peu plus d'argent prévu sur les deux lignes dont le destin est lié, le POLT et le Clermont-Paris, on est impatient.
Donc effectivement, je pense que les deux priorités, c'est la régularité et le temps. Alors j'ai bien compris que 2h30, ça allait être très compliqué, mais soyons ambitieux, mettons-nous ça en objectif, parce que ça me semble très très important. À moi, et évidemment, à beaucoup d'autres, je pense. Voilà, moi je voulais dire que justement, les plus petites villes comme Moulins souhaitent continuer à être des services, c'est une chose. Vic-le-Comte, on adore avoir le TER, sauf que, voilà, le matin, ça match. Moi, j'ai un TER à 5h20 dans mon village. J'arrive à 40, et ce qui me permet de prendre le train de 5h52. En revanche, au retour, quand je prends le train de 16h, alors mon TER, mon train arrive à 19h36 en gare de Clermont. Et à quelle heure part le TER pour Vic-le-Comte ? Eh bien, à 19h31, 5 minutes avant. Alors, ça fait plusieurs fois que je parle de ce sujet. Peut-être faudrait-il avoir une espèce de coordination entre les horaires des TER. Enfin, le train de Paris me semble être un feeder quand même pour ce TER qui dessert tout le sud de Clermont. Donc, Issoire, il va jusqu'à Brioude, je crois. Voilà. Issoire, c'est aussi un pôle d'activité important, des industries. Voilà.
On va peut-être laisser messieurs Pépi et Djebari répondre.
J'ai un dernier tout petit sujet, parce qu'après, je ne reprendrai pas la parole. Ouais. Ouais. Et tout ça, je le rapporte au climat. C'est-à-dire que moi, du coup, je prends ma voiture parce que quand je rentre le soir, je dois attendre 2 heures puisque le TER suivant est à 21h47. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma voiture. Et je suis plutôt consciente de l'urgence climatique, donc ça ne me plaît pas du tout. Merci. Sur les relations clients, Voilà, on note des dysfonctionnements des applications, mais ça, vous verrez ça sur la ligne, sur la page Facebook, tout voilà. Des lacunes en termes de communication. Je pense qu'on pourrait faire un effort sur la communication spécifique avec les usagers, enfin les abonnés. Quand on passe aux horaires d'été, aucun contrôleur n'est au courant d'à quelle date on passe aux horaires d'été. C'est un impact fort pour nous parce que le direct est supprimé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut anticiper de prendre à 5h16 au lieu de 5h52. C'est des choses toutes bêtes, mais voilà.
Bon, juste, s'il vous plaît, on ne va pas lire, vous remettrez le document, on va peut-être laisser...
J'ai une dernière chose très importante.
Non, mais
c'est sur l'abonnement, l'abonnement Liberté.
Mais très rapidement, parce qu'on aimerait avoir les réponses, s'il vous plaît.
Me semble être un abonnement probablement pensé par des Parisiens, parce que l'abonnement, on avait l'abonnement Fréquence qui est passé à l'abonnement Liberté, donc plus cher, en plus 22% par trajet, moins cher à l'abonnement certes, mais au final, sur une année, ça nous coûte beaucoup plus cher. Moi, j'ai estimé que c'est à 400€ globalement. Et ce n'est pas reconnu par l'URSSAF, qui ne reconnaît pas ça comme un abonnement. Donc, on ne peut pas faire prendre ça en charge par nos employeurs. Certains employeurs prennent en charge une partie des abonnements. Ça n'est pas reconnu. Voilà. Et certes, on peut voyager sur toutes les lignes en France, mais nous, ça ne nous intéresse pas parce que depuis l'Auvergne, finalement, on va pas grand, pas ailleurs qu'à Paris en train, parce qu'on prend nos voitures. On va Lyon, on met 30 minutes de plus ou 40 minutes de plus pour aller à Lyon en train. Enfin, voilà. Donc, cet abonnement n'est pas adapté à des lignes qui ne sont pas desservies par des TGV et qui sont probablement à plus de 1h30 ou 2h de temps de transport. On ne fait pas un aller-retour tous les jours pour aller à Paris depuis Clermont.
Très bien, voilà. Merci. Okay. Là, on y va vraiment. Okay. Monsieur le ministre.
Trois points rapides pour laisser la place au débat. Sur précision sur les volumes d'investissement. Donc, sur la voie, c'est 760 millions d'euros engagés sur la rénovation de la voie. Et sur les rames, c'est 12 trains neufs à Clermont, en tout cas sur la ligne Paris-Clermont. Et c'est un volume de 350 millions d'euros. Et c'est effectivement la même commande qui va concerner la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Sur l'adéquation des horaires entre le TER et le train, deux éléments. D'abord, c'est la région qui organise, comme vous le savez, les horaires des TER, puisqu'elle est l'autorité en charge des mobilités. Et moi, je crois beaucoup, et on l'a fait un peu chez nous, au rôle du numérique pour mieux comprendre, avec toutes les données qu'a la SNCF, pour mieux comprendre le déplacement, les flux de déplacement des usagers et pour mieux paramétrer, évidemment, en lien avec la région ou sous l'autorité de la région, les correspondances, l'adéquation de l'offre sur l'intercité et le TER. Donc, on a fait des expérimentations qui permettent d'ailleurs parfois de se rendre compte que les préconceptions qu'on a sont assez largement démenties par les faits. Et dernier élément, avant de laisser Guillaume compléter, sur l'information voyageur. Moi, je note quand même que le système d'information voyageur d'intercité s'est amélioré, notamment par la réception de SMS qui vous préviennent des retards, des dysfonctionnements éventuels. Bon, il y a une qualité quand même de l'information qui est un peu supérieure. Ça a été mis en place ces 18 derniers mois. Et en tant qu'usager, pour le coup, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti de façon plutôt positive. Voilà en quelques mots les éléments de précision.
Merci, monsieur le ministre. Les deux choses sur lesquelles je peux compléter. D'abord, il faut qu'on ait un bloc de lignes, et ça va se faire, parce qu'en fait, la communication avec les voyageurs fréquents n'est pas suffisante aujourd'hui. Il y a beaucoup de voyageurs qui sont occasionnels. On a parlé des touristes, mais les voyageurs fréquents comme vous, la communication n'est pas suffisante. Donc, la direction de ligne va mettre en place un blog de ligne qui va être un forum d'échange et qui permettra de faire remonter des choses et puis de partager des infos. Typiquement, attention, dans 10 jours, passage au service d'été, donc soyez vigilants, etc. Deuxième truc, sur l'abonnement. L'abonnement, il a été refait pour justement baisser les prix de 90% des gens. Et s'il satisfait 90% des gens, il y a effectivement des gens qui n'y gagnent pas et qui y perdent. Et vous êtes dans cette catégorie-là des 10% qui y perdent, c'est-à-dire des gens qui font le même trajet très, 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 très souvent sur longue distance intercité et qui n'utilisent pas les autres lignes. Le principe de cet abonnement de liberté, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir être utilisé sur toutes les lignes. Donc, il faut qu'on regarde, on discute avec les associations de consommateurs, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire. Je voudrais juste faire une dernière remarque qui n'est pas philosophique, mais moi, j'ai la chance de rencontrer des voyageurs, des clients tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans les trains. On est un pays dans lequel, en gros, les trains marchent bien et dès qu'on est à l'étranger, tout le monde nous dit « Ah bah toi, tu as de la chance, tiens, tu es en France et donc tu as un bon système de train. » Mais la contrepartie de ça, c'est que c'est vrai qu'en France, on habite et on travaille souvent de plus en plus loin l'un de l'autre. Et là, par exemple, c'est vrai que vous habitez
et vous travaillez à en gros 470 ou 480 km de distance. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous décidez d'aller bosser et vous décidez de rentrer chez vous, vous allez faire plus de 900 km dans la journée ou en deux jours. Et c'est vrai que quand tout d'un coup on prend du recul et qu'on se dit, tiens, pour aller bosser, je fais 900 km, on est un peu saisi par l'effroi. Et moi, je vous dis très franchement, nous, c'est un sacré défi d'avoir des gens comme vous. On est ravis, hein, parce que vous connaissez la SNCF mieux que nous. Mais on est un peu la trouille en se disant, est-ce qu'on peut toujours être à la hauteur de quelqu'un qui fait 900 km quand il va travailler en aller-retour. Et c'est la même chose quand les gens ont un TGV. On a des abonnés qui font tous les jours Lyon-Paris, tous les jours Metz ou Nancy-Paris. Alors, à fond, on est ravis parce qu'on se dit, mais c'est vraiment des fans du train. Mais en même temps, c'est des gens pour lesquels le moindre grain de sable devient une catastrophe. Et des grains de sable dans le chemin de fer, il y en a quand même très, très souvent. Et puis, sur la fatigue, sur les tarifs, sur les conditions de vie, c'est vrai que faire autant de kilomètres tout le temps, ben, pour vous, ce n'est pas facile. Mais comprenez aussi que pour nous, c'est un sacré défi parce qu'il faudrait que ça soit absolument parfait tous les jours, comme si c'était un peu votre métro.
Madame Balvé, une question peut-être. Vous aviez levé le doigt tout à l'heure.
Alors, ce n'est pas Balvé, c'est Laurence Roctanière, la société GreenTech. Pas de problème, il n'y a aucun souci. Voilà, nous, on est une entreprise donc, basée à Clermont-Ferrand, juste à côté à Saint-Pauzire. Donc, on est dans les biotechnologies et donc on est très sensible au transport propre. Donc, le volet ferroviaire pour nous est important hein, dans la logique même de la société. Moi, j'avais une question, mais peut-être que c'est des débats qui ont déjà eu lieu dans le passé. C'est pourquoi... avons-nous été reportés sur la gare de Bercy, sachant que lorsque l'on arrive, on voit bien qu'il y a un ralentissement important, on va dire, à l'arrivée sur Paris, sur Bercy. Donc pourquoi, effectivement, on a eu ce rabattement ? Et est-ce qu'il y a possibilité qu'on revienne sur la gare de Lyon ? Parce qu'on est, nous, en tant que société, on fait 60% de notre chiffre à l'export. Et c'est vrai qu'arriver directement sur la ligne de gare de Lyon pour ensuite récupérer les avions, parce qu'ici, on a très, très peu de connexions, on va dire, à l'aéroport qui soit international. Donc, moi, c'est réellement cette question-là. Pourquoi on a fait, on va dire, ce rabattement sur la gare de Bercy ?
Quand SNCF, le réseau l'a décidé, c'était un moment où on était en train d'exploser le nombre de trains qui sont à la gare de Lyon. Puisqu'il y a des TGV qui se rajoutent d'année en année au fur et à mesure que le trafic se développe. Et donc, le choix qui a été fait à l'époque, c'était de mettre l'Auvergne, le Nivernais et puis les TER vers la Bourgogne à la gare de Bercy. On se souvient qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions à ce moment-là, beaucoup, beaucoup de mécontentement. On a fait récemment une enquête et là, maintenant, les points de vue sont assez partagés. C'est-à-dire que vous avez, en gros... une moitié des gens qui sont plutôt contents d'être en gare de Bercy, surtout depuis que la connexion avec le métro, avec la ligne 14, a été enfin faite. Et puis, au fur et à mesure, la gare de Bercy s'améliore. Et puis, la gare de Bercy, elle reste une gare relativement tranquille. Donc, il y a des gens qui en fond, ne regrettent pas le passage à Bercy. Et puis, il y a des gens comme vous qui n'ont pas la bonne connexion avec le métro ou avec le RER et avec lesquels ça crée une dizaine ou une quinzaine de minutes supplémentaires. Si je ne veux pas être hypocrite, je pense qu'on n'arrivera pas à remettre ces trains, tout simplement parce que la gare de Lyon, vous avez vu, on essaye de la faire déborder un petit peu du côté des voies à chiffres, mais on ne peut absolument plus rajouter de voies à la gare de Lyon. Donc, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière.
Bonjour, Philippe Mettet. Alors, je suis désolé, monsieur Pépi, mais je vais encore plus vous effrayer par rapport au témoignage précédent. Parce que par mon activité, je prends très souvent le train, je fais Clermont-Lyon, Lyon-Paris et Paris-Clermont. Donc j'ai le panel de votre offre de service. Je voulais quand même revenir... Alors, pas tous les jours quand même. Je voulais revenir sur ce point avec la gare de Bercy, qui effectivement aujourd'hui est une gare sur laquelle on arrive et on repart de Paris. Le salon... n'est accessible qu'environ 4 heures par jour. Vous prenez le train de 7 heures du matin à Paris, vous ne pouvez pas prendre un café. Vous avez besoin d'arriver en début d'après-midi à la gare de Bercy le salon n'est pas ouvert. Enfin, voilà, il y a toute une offre de services que l'on peut trouver à Gare de Lyon ou sur d'autres gares parisiennes que la gare de Bercy, Bourgogne, Pays d'Auvergne ne permet pas.
Je ne savais pas. Deux, vous avez évidemment raison. Donc, on va regarder le sujet et on va ouvrir le salon sur une plus grande durée. Voilà, je pense que ça, c'est un dysfonctionnement qu'on peut corriger assez facilement. Qu'est-ce qu'il faudrait comme horaire ? Il faut sur le salon à Bercy ?
Le salon, il ouvre après le départ du premier train. Donc, je pense que déjà l'ouvrir un tout petit peu avant pour accueillir les clients professionnels pourrait faciliter leur accueil. Et de mémoire, il ouvre à 15h30 et ne permet donc pas, sur les deux trains de début d'après-midi,
d'accueillir. Donc, il faut l'ouvrir en continu avant le premier train et jusqu'à la fin d'après-midi.
Ainsi que les deux commerces qui sont, si c'est pas la SNCF qui sont déjà assez petit, lorsque vous prenez le premier train de 7h au départ de Paris, ne sont pas ouverts.
Ok, bon, je prends ça en charge. Pour aller au salon ?
Pour gagner du temps également sur, en tout cas, ne pas en perdre, la problématique qui se pose également, Monsieur Pépi, c'est une meilleure insertion des intercités dans le trafic de la région Île-de-France. Et notamment la ligne R du Transilien. C'est vrai que dès qu'il y a un retard, les intercités de la ligne Clermont-Paris les subissent. Et de fait, à chaque fois, c'est autant de temps retardé puisque la ligne n'est pas prioritaire par rapport au Transilien. Est-ce qu'il y a un moyen de prendre en compte cette situation dans le trafic afin d'assurer une meilleure régularité ?
Non. Je préfère. Non, parce qu'il y a une règle européenne dans tous les pays d'Europe. C'est la même règle. C'est que le train qui est à l'heure, à la minute près, a la priorité sur un train en retard. Donc, si votre intercité est à l'heure à la minute près, il passe dans son horaire prévu. Mais s'il est en retard, le train qui est à l'heure de la ligne R ou de la ligne D ne va pas être mis en retard pour vous faire passer en priorité. Donc ça, c'est une règle qui existe dans toute l'Europe ferroviaire. C'est celui qui est à l'heure passe à l'heure. Et celui qui est en retard, eh ben, le malheureux, il ne passera pas de façon prioritaire. Je préfère être direct et franc plutôt que vous raconter des carabistouilles.
Merci. Vous vouliez poser une question, je crois, madame.
Oui, merci pour la qualité de cet échange. Armelle Balvet du groupe Michelin. Je reviens sur la demande effectivement extrêmement précieuse concernant le salon, parce que non seulement il était ouvert toute la journée, mais non seulement maintenant il est ouvert que les après-midi, mais pas tous les après-midi. Ça, c'est un confort pour les voyageurs professionnels important. Je me permets de revenir sur l'aspect communication. Nous aussi, on vit des crises et je crois que toutes les entreprises qui sont ici connaissent les périodes de crise. Je suis assez étonnée en période de retard très important du manque de communication qu'il y a dans le train. Et très souvent, on se sent un peu, en tant que voyageur, un peu abandonné. On ne sait pas pourquoi on n'a pas le droit de descendre sur la voie. On est bloqué à l'intérieur du train. Le contrôleur a l'air de ne pas avoir beaucoup plus d'informations. Or, je pense que ça nous rassure et qu'on est capable de comprendre si c'est un arbre. On est capable de. Donc, je m'interroge sur le fait qu'on ait toujours aussi peu de communication, alors que je pense qu'on est tous capables de comprendre qu'une crise peut arriver et que vous agissez pour notre sécurité.
Très brièvement. Le ministre a mentionné dans son introduction, il y a un problème de couverture sur la ligne GSM. Et on le voit quand on est sur la ligne, ça passe pas. Bon, ça dépend pas de la SNCF, ça dépend de Orange, de Free, de Bouygues et de SFR. Bon, alors on met la pression sur les opérateurs pour qu'il y ait une couverture. Et puis il y a eu des textes de loi récents sur les zones blanches comme ça. Mais c'est vrai que assez souvent le contrôleur n'a pas les petites barrettes pour recevoir la communication de la part du centre opérationnel. Et donc, il est comme vous, c'est-à-dire qu'il est, en gros, dans le noir et il ne peut pas avoir de communication. Donc ça, on va le traiter, évidemment, avec les nouveaux trains qui auront des systèmes de répéteurs
ça a été dit par le ministre, des systèmes de répéteurs pour améliorer la connectivité du train. Et je sais que le ministre, c'est un des sujets auxquels vous êtes très attaché. Salon, j'ai pris les choses. Le sujet descendre sur la voie ou pas descendre sur la voie, c'est vraiment un sujet de sécurité qui est celui qui nous angoisse le plus. Il y a une douzaine d'années, on a eu en région parisienne une situation de blocage. Et à partir du moment où la circulation était bloquée, les voyageurs se sont dit, bah, puisque c'est bloqué, il n'y a pas de risque à descendre sur les voies. Sauf qu'ils sont descendus sur les voies. Par miracle, il n'y a pas eu de mort ou de blessé, mais toutes les voies n'étaient pas interrompues. Et il se trouve qu'il y a un RERD qui est passé à 120 km/h. Les gens n'ont eu le temps que de se plaquer et potentiellement, il y aurait eu des dizaines et des dizaines de victimes. Donc, la possibilité de faire descendre les gens sur les voies, c'est entouré d'un nombre de précautions considérables. Peut-être excessif du point de vue du bon sens, mais on est vraiment obsédé par le fait de se dire c'est pénible d'être stoppé, c'est pénible d'être bloqué, mais le plus important, c'est de loin la sécurité. Donc, c'est une des contraintes du système ferroviaire.
Peut-être un tout petit point de complément sur le système Wi-Fi. En fait, le système Wi-Fi à bord, il agrège les signaux GSM. C'est une petite antenne extérieure et ça permet après de faire rebondir la connectivité Internet à l'intérieur. Peut-être je soumets une hypothèse à Guillaume Pépi, mais peut-être de réfléchir aussi sur les vecteurs de communication à un compte Twitter qui serait. Parce que j'ai remarqué que, effectivement, vous parliez du compte Facebook, mais on agit beaucoup en communauté quand on est voyageur de la SNCF. Et donc, du coup, d'avoir une plateforme sur laquelle on peut s'identifier et avoir de l'information en temps réel avec du visuel, c'est très parlant. Je pense que c'est un mode de communication qui correspond assez aux besoins des usagers.
Et c'est mieux qu'un blog, à votre avis?
Je pense que c'est mieux.
Parce que plus réactif, et peut-être plus visuel.
Je vous assure que la communauté des usagers Clermont-Paris est très active, donc vous leur parlerez directement. Merci. En tout cas, on arrive à la fin de ce partage. Peut-être pour respecter les horaires qui sont les vôtres et les différents entretiens avec vos interlocuteurs, peut-être le mot de la fin pour Monsieur le ministre et Monsieur Pépi à destination des usagers et peut-être un petit mot sur à la fois sur le POLT, puisque nos amis et voisins limousins vous suivent en direct et que nous leur communiquerons les différents éléments concernant cette ligne, et également sur le Clermont-Paris.
Non, un mot d'abord pour vous remercier effectivement de la qualité des échanges, pour vous dire que pour nous c'est précieux d'avoir ces temps d'échange avec les usagers, parce que c'est pas une politique qui se conçoit. Alors ça se conçoit un peu à Paris, mais surtout ça se déploie dans les territoires, l'ensemble des champs des transports, singulièrement la SNCF, et qu'on s'est aperçu, en tout cas on l'a vécu comme tel, que les crises, y compris les crises sociales récentes, sont aussi souvent le fruit de la perception d'un recul de l'État, notamment parfois, enfin, dans laquelle effectivement la SNCF, qui est quand même une petite part de la France, joue son rôle. Donc on est pleinement conscience à la fois de l'importance du ferroviaire dans la vie des Français, et on est très heureux, en tout cas je suis très heureux, mais je crois que Guillaume le partage, de partager ce moment-là avec vous, qui nous alimente et qui nous permet d'affiner un peu chacun de nos fonctions, notre action.
Peut-être, si le ministre le permet, je me demande si, peut-être une fin de proposition. Il me semble qu'il y aura un intérêt à ce que, sur tous les engagements que vous avez rappelés, on ait un comité de suivi de ces engagements périodiques. Le ministre décidera où ça se tient, mais en tout cas, un comité de suivi des engagements. Et en parallèle de ce comité de suivi institutionnel, je trouve que peut-être avoir un groupe comme ça d'utilisateurs et d'utilisatrices de la ligne qui se réunissent comme ça informellement deux fois par an, et puis qu'on puisse vous faire visiter aussi des choses, c'est-à-dire qu'on puisse vous faire visiter les chantiers, qu'on vous puissiez voir où ça en est et puis nous faire des commentaires. Je pense que rien ne remplace le fait de pouvoir discuter directement d'un certain nombre de choses. Donc j'aurais envie qu'on se revoit dans un système où on peut, avec un groupe de voyageurs, périodiquement faire le point.
Merci beaucoup. On retient la proposition. En tout cas, on n'hésitera pas à la relancer. Merci beaucoup. Merci aux usagers. Et on va continuer à suivre vos différentes interventions avec les différents interlocuteurs tout au long de la journée et potentiellement quelques annonces complémentaires. Merci.